BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
C'est votre ventilateur rafraîchissant de l'après-midi. On essaie de vous aider à ventiler vos performances, vos portefeuilles boursiers avec, en fil rouge, il est là, Antoine Larry-Gaudry. Rebonjour Antoine.
Rebonjour Guillaume.
Votre mot du jour.
On va dire fébrilité. Hein. Il vient de se passer quelque chose d'assez étonnant sur les semi-conducteurs. Le temps de faire une petite pause culture bourse. ST Microelectronics, qui était en leader du CAC 40 à plus de 3 à 4% de hausse, c'est violemment retourné, ainsi que l'ensemble du secteur. Le titre est quasi inchangé, toute petite hausse maintenant. Et Micron ne gagne plus qu'aux alentours de 7-8%, comparé à une hausse de 10-13% hors marché hier après la publication de ses résultats, de ses perspectives. Ouais, il a suffi peut-être, alors c'est peut-être ça, d'une annonce d'IBM du côté des États-Unis, qui lance une nouvelle série d'initiatives technologiques sur le thème des semi-conducteurs, mais alors avec des performances visiblement extrêmement élevées, extrêmement poussées. Est-ce qu'on craint une disruption des principaux acteurs au profit d'autres, comme IBM? En tout cas, ça se passe vraiment à vitesse flash. Et l'Euronext Tech Leaders, qui était en hausse de quasiment 1,5% et un petit peu plus tout à l'heure, ne gagne plus que 0,36%. Donc les choses vont quand même très, 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 très vite.
Effectivement, il y a un petit côté ballon de baudruche là, avec cette séance dans la tech, où on avait ouvert en hausse quand même. Micron gagnait 20%, puis là, on a divisé les gains par deux. Les hyperscalers sont tous en repli. On va essayer de comprendre, effectivement, les tenants et aboutissant. Mais à part ça, il y a quand même plutôt des bonnes nouvelles aujourd'hui. D'abord, la croissance américaine, elle est révisée à la hausse pour le premier trimestre. Elle est révisée à 2,1%. Pas mal quand même. Les banques américaines aussi, elles sont les banques américaines entourées positivement. Pourquoi ? Parce qu'elles ont réussi leur stress test. Ouais, la Fed leur a fait passer un certain nombre de tests en prenant l'hypothèse d'une récession faisant monter le chômage à 10% aux États-Unis, ce qui serait quand même une sacrée récession. Eh bien, les banques américaines ont réussi ces stress tests. On en parlera, c'est plutôt, en l'occurrence aussi, de nature à rassurer. Alors, faut-il se retenir de vendre sur les marchés face à tant de bonnes nouvelles? Ben non, on voit que les investisseurs aujourd'hui arbitrent lourdement, y compris au sein des hyperscalers. On parlera donc de stratégie d'allocation et on parlera aussi des cours du pétrole, alors qu'ils repartent un peu à la hausse, là, $74 pour le baril de Brent de la mer du Nord. BFM Bourse sur toutes ces batailles de marché et BFM Business sur l'ensemble des grandes actualités du jour. À suivre aussi aujourd'hui l'alerte rouge de la Cour des comptes sur les finances publiques. La situation budgétaire française est alarmante, écrivent les magistrats de la Cour des comptes. La réduction du déficit public risque de tourner court en raison de la guerre au Moyen-Orient. D'après les dernières prévisions, le gouvernement anticipe toujours une croissance de 0,9% en France en 2026 et une inflation à 1,9%. La canicule, le plan Orsan 3, a été activé dans les hôpitaux, contre 4 fois plus de passages aux deux nouveaux réacteurs nucléaires. 4 fois plus de passages dans les hôpitaux. Et puis, deux nouveaux réacteurs nucléaires sont à l'arrêt en France aussi, du fait de cette canicule. SNCF Voyageurs, de son côté, dit avoir supprimé en moyenne 10% de ses trains. Et puis, la justice française ordonne à Total Energy d'intégrer 6 mois les émissions de ses clients dans son plan de vigilance. Le pétrolier était accusé par des ONG et la ville de Paris de manquer à ses obligations en termes de risque climatique. BFM Bourse, on est sur toutes ces batailles de marché et à vos côtés dans votre camp. Bienvenue à tous.
Restez connectés à l'actualité économique en téléchargeant l'application BFM Business. Regardez toutes vos émissions en live ou en replay. Abonnez-vous au podcast et réécoutez le meilleur de BFM Business quand vous le souhaitez. BFM Business, première sur l'écho.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Le CAC, Antoine,
oui,
est en forme, même si on a des évolutions de marché un brin surprenante cet après-midi.
Oui, on a des hoquets, hein, on l'a dit il y a quelques instants. Il y a eu une grosse poussée de volatilité autour des semi-conducteurs qui étaient très très bien orientés, évidemment, dans le sillage des très bons résultats, des très bonnes perspectives de l'américain Micron. D'un coup, il y a eu un très très net décrochage et ça se voit sur les courbes en intraday, sur ST Microelectronics, sur Soitec, etc., qui signaient parmi les plus fortes hausses du jour et qui maintenant sont revenus quasiment à des niveaux d'équilibre. Alors, on l'a dit, l'explication, c'est peut-être celle d'IBM qui a annoncé en grande pompe lancer une nouvelle technologie de semi-conducteurs ultra performants, justement dans les domaines que trustent en ce moment les hyperscalers. C'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être tout simplement des prises de profit de très court terme, des appels de marge en série, etc. On sait que c'est des mouvements qui peuvent un petit peu essaimer le marché sur l'ensemble de l'été, hein, au vu des multiples de valorisation un petit peu partout. En tout cas, le CAC 40 gagne 0,6%, 8438 points, mais alors grâce, si on regarde aux contributeurs à la hausse, à des valeurs très très traditionnelles, hein, Accor Accor gagne 3,3%, 51,68 Saint-Gobain plus 3, 82,28 Engie plus 2,6, 27,19 €. À la baisse, à noter quand même deux secteurs bien identifiés en délicatesse. La défense, toujours avec Thales qui recule de 2%, 220,80 €, ou encore l'automobile avec Renault, moins 0,79 à 26,40. Et puis, à signaler, l'euro-dollar, toujours installé sous 1,14, qui reprend tout petit peu de force, mais 1,1378. Voilà, ça se fait très graduellement. L'or est toujours juste au-dessus des 4 000 $, à 4 021 l'once. 74 pour le Brent sur le marché pétrolier, 70 pour le brut léger américain.
Damien, toujours avec nous, Damien Charlet pour Mandarine Gestion. L'une des valeurs donc qui se distingue, c'est STM, qui était en forte hausse, plus forte hausse du CAC. Il gagnait 4% il y a une demi-heure, puis là, STM fait quasiment plus rien. On voit tout le segment de la tech s'être retourné. Le Nasdaq, malgré Micron, qui gagne 9%, le Nasdaq perd 0,2. On a les hyperscalers aussi en net repli. Ça va dans le sens de ce que vous nous disiez tout à l'heure. Ah, les investisseurs ont peut-être envie quand même de faire tourner les portefeuilles désormais.
Oui, je pense qu'effectivement, on voit un certain nombre de valeurs qui plafonnent, même quand elles révisent à la hausse. Alors, elles ont connu des parcours éblouissants, hein, donc un STM, un Infineon, les valeurs des semi-conducteurs depuis quelques semaines, on va dire, c'est quand même assez récent, elles montent plus. Et effectivement, sur une très bonne publication, aujourd'hui, elles n'arrivent pas à monter non plus. Donc,
regardez le graphique, là, on le voit pour ceux qui nous suivent à la radio, on est aussi à la télé, vous voyez le graphique d'STM aujourd'hui, c'était une super journée et tout, et puis paf, d'un coup... Avec Wall Street, le Nasdaq, ça s'est retourné à la baisse. Puis là, ça remonte et on est à nouveau en hausse de 2%.
Mais ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'économistes, d'analystes, de stratégistes qui s'interrogent sur les perspectives d'investissement dans le segment des data centers et qui se demandent si aujourd'hui, potentiellement, on n'est pas arrivé au pic. Dans la quantité d'investissement, dans la masse d'investissement, donc aussi au pic dans la croissance que vont enregistrer ces sociétés-là. Il faut quand même rappeler, et je pense que certains investisseurs l'oublient, c'est que les semi-conducteurs, on peut penser ce qu'on veut, c'est un secteur cyclique.
Donc à un moment, ça se retournera.
Donc à un moment, ça va se retourner.
La question, c'est quand.
Alors, si on regarde, par exemple, un Micron, parce qu'il publie aujourd'hui...
Oui. C'est un carton, quand même, la publication.
Alors, c'est un carton, mais de toute façon, tous les
bénéfices, les bénéfices fois 15 sur un an, largement au-delà de ce qu'avaient anticipé les analystes.
Ah oui, c'est un carton, mais toutes les sociétés semi-conducteurs, depuis 18 mois, c'est un carton. Donc, j'allais dire, ils font pas exception. Mais si on regarde un peu plus loin, alors, ils révisent à la hausse, ok, super. Dans les deux ans qui viennent, a priori... Ils sont trois acteurs dans leur activité principale que sont les mémoires. Les capacités vont doubler. Donc les capacités vont doubler. Alors est-ce que dans un an et demi et malheureusement j'allais dire historiquement souvent c'est le cas. Alors il y a des acteurs qui sont plus raisonnables que d'autres, mais souvent quand on commence à faire des investissements en masse et qu'on augmente les capacités, ça arrive que on investisse à contretemps. Et que c'est un impact très négatif sur les marges quand la demande commence à faiblir. Aujourd'hui, ces boîtes-là, elles gagnent beaucoup d'argent et elles progressent. Et leurs résultats progressent beaucoup pour deux raisons. C'est que évidemment, elles ont beaucoup plus de commandes qu'avant, donc il y a des volumes qui augmentent. Et la deuxième raison, et qui est pratiquement la principale, c'est que les prix explosent à la hausse parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Donc, typiquement, un Micron, et c'est vrai aussi pour tous les autres acteurs semi-conducteurs, ils ont vu leurs marges exploser à la hausse. Donc, quand vous avez vos marges en moyenne chez Micron qui sont à 30%, qui passent à 80%, sans même rien d'autre à côté, vous avez vos résultats qui augmentent de 150%. Donc là, Micron, quand il publie aujourd'hui, il publie des marges à 80 et quelques pourcents. Grosso modo, des marges qui pourront pas aller plus haut. Ou ça sera compliqué de les faire aller plus haut. Donc, la croissance des trimestres à venir, elle devra venir essentiellement du chiffre d'affaires et non plus de la marge. Donc, il y aura quand même une difficulté supplémentaire pour enregistrer de la croissance à l'avenir. Et puis, si jamais par hasard, alors là, on n'en est pas du tout là. Hein, là, je me réfère juste à l'histoire pour rappeler que malheureusement, les arbres montent pas jusqu'au ciel.
Mais si.
Mais les prix, à un moment, ils se calment parce qu'il y a de la concurrence qui arrive. Parce que quand la demande baisse, il y a moins de tension sur les prix et qu'à un moment, les prix, ils arrêtent.
C'est ça. Et puis, il y a dans le fond du cœur des investisseurs cette question quand même, au fond de leur âme. Tant d'investissements pour peut-être un jour se faire disrupter et remplacer comme une paille. C'est la question pour tous ces acteurs hyperscalers de l'IA qui aujourd'hui sont en assez net repli de 3-4%, que ce soit Microsoft, Alphabet, etc. Ils sont tous en repli, d'où la baisse du Nasdaq d'ailleurs.
Alors ça, c'est toujours le risque. Maintenant, les hyperscalers, la plupart sont en baisse depuis le début de l'année. Donc c'est j'allais dire, malheureusement pas un événement qui date de ces derniers jours. Si vous regardez... entre Meta, Oracle, Amazon, Alphabet, et un dernier que j'oublie qui est Microsoft, vous avez que Google qui est en hausse, enfin Alphabet qui est en hausse depuis le début de l'année. Vous avez Amazon qui est flat plus, et les trois autres perdent 15, 20, 25% depuis le début de l'année. Alors, il y a d'autres sujets, hein, parce que eux, ils sont...
Ce qui n'empêche pas Wall Street de battre des records. Ça, c'est quand même encourageant, pour le coup. C'est qu'on arrive, on arrive quand même à des records.
Absolument. Ce qui n'empêche pas Wall Street de battre des records, mais comme on le disait tout à l'heure, en Europe, où il n'y a pas tous ces gros acteurs, où il n'y a pas beaucoup où le secteur technologique ne représente pas un gros poids, ben l'Europe surperforme les États-Unis.
Bon, à Wall Street, il y a quand même, donc, on en disait un mot, Micron en hausse de 9% après sa publication. Enfin, il gagnait 20% ce titre tout à l'heure. On a divisé les gains par deux. Faut pas oublier Qualcomm aussi qui a publié, qui gagne 5% aujourd'hui. Qualcomm prévoit, alors on verra, à l'horizon 2029. Damien, 2029,
on a encore du temps.
Il prévoit 15 milliards de dollars de vente de puces pour centre de données d'ici 2029. À leur échelle, 15 milliards, c'est pas mal. Et le marché achète. Oh, il y a une valeur européenne qui rivalise aujourd'hui avec ces valeurs en hausse, là, Qualcomm ou encore Micron. Il y en a une, elle gagne 7%, EasyJet. EasyJet intéresse vraiment alors un acteur qui s'appelle, c'est un acteur américain qui s'appelle Castle Lake, qui a proposé une quatrième offre à nouveau relevée sur EasyJet et à nouveau rejetée. Le titre EasyJet gagne donc 7% cet après-midi. C'est la fête sur EasyJet depuis quelques jours.
Mais ce que je trouve particulièrement intéressant surtout, et là je veux pas paraître obnubilé par le marché européen, mais c'est que ces dernières semaines, ou même ces derniers jours, parce que c'est quand même très récent, on a déjà eu trois offres de rachat de sociétés. Et pas des sociétés complètement inconnues. Ouais. Hein. On a eu Edenred, qui est quand même une grosse boîte. On a eu Pierre et Vacances. Et on a EasyJet. Et en plus, EasyJet, c'est sur un secteur qui, traditionnellement, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils voudraient racheter du secteur aérien? Et je pense que ça traduit quand même une chose importante, c'est que il y a beaucoup de pans de la côte qui sont à des niveaux de valo complètement absurdes. Complètement absurdes par rapport à, si on parle d'un Edenred, par rapport à la génération de trésorerie qu'ils peuvent avoir chaque année. Et des fondamentaux qui restent très solides malgré les interrogations qu'on peut avoir sur le côté juridique, réglementaire, les évolutions au Brésil, en Italie, en France, peu importe. Il n'en reste pas moins que je pense que ça traduit vraiment le fait que si on va creuser un peu dans la côte et si on regarde les valos, ce que les investisseurs font pas toujours, si on achète des sociétés qui sont pas forcément en odeur de sainteté à un moment donné, mais qui sont des sociétés saines, avec des valos basses, à un moment, l'élastique se repart dans l'autre sens.
Damien Charlet avec nous aujourd'hui pour Mandarine Gestion. Merci beaucoup Damien. Les marchés en direct. Antoine.
Je tenais à informer notre aimable clientèle que le Bitcoin vient de crever le plancher des 60 000 dollars et significativement n'est plus qu'à 58 958 dollars. Et ça correspond justement à ce retournement de marché sur la tech. C'était assez impressionnant. Donc voilà, le Bitcoin à 58 000 dollars désormais.
Et le club BFM Crypto d'ores et déjà disponible en podcast si vous voulez en savoir plus sur l'avenir du Bitcoin. Le CAC est en hausse. Plus 0,6%.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Et Gilles Mouette nous rejoint pour le groupe AXA, chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles, on est ravis de vous retrouver. On a des chiffres macroéconomiques américains plutôt pas mal encore aujourd'hui, Gilles, à savoir alors l'inflation quand même au plus haut depuis 2023, mais conforme aux attentes, et puis la croissance américaine, elle est révisée à la hausse pour le premier trimestre.
Elle est révisée à la hausse et semble-t-il, ça provient d'une nouvelle révision de l'investissement qui est, ça se confirme de trimestre en trimestre, qui est vraiment le moteur de la croissance américaine en ce moment, plus que la consommation, même si le dernier chiffre qu'on a eu pour le mois de mai est plutôt rassurant. On en arrive à une concentration de la croissance américaine qui est quand même impressionnante. J'en faisais quelques calculs à l'instant. Aujourd'hui, les composants liés à la tech représente à peu près 2/3 de l'investissement privé américain hors logement, les 2/3. Et voilà, on a la confirmation de ce moteur qui ne s'arrête pas. Ça ne viendra pas calmer les ardeurs de la Fed, à mon avis, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, sur l'inflation, les nouvelles continuent à être problématiques. C'est pour l'instant, en grande partie toujours, en tout cas sur l'épisode le plus récent, l'impact quasi direct de la crise dans le Golfe, puisqu'on a eu une augmentation supplémentaire des tarifs aériens, et ça va sans doute se calmer dans les mois qui viennent. Mais je répète ça à chaque fois, le problème américain, c'est que l'inflation était déjà trop élevée avant la crise du Golfe, et elle le restera sans doute après.
Gilles, parallèlement, les effets de change sont extrêmement puissants en ce moment en faveur du dollar. On a une vraie remontée du dollar depuis quelques jours, vraiment spectaculaire. Il y a un peu plus d'un mois, l'euro valait 1,19$ quasiment. Là, on est sous le dollar 14. À quoi est-ce que vous l'attribuez? Est-ce que c'est un nouveau régime là sur le marché des changes qui se met en place en faveur cette fois du dollar?
Ouais, je pense que en fait, l'un des facteurs principaux, c'est la réassurance sur la Fed, avec un discours de Kevin Warsh qui est quand même assez largement différent de celui qu'il avait tenu lors de sa campagne d'investiture, entre guillemets. Donc on est rassuré sur la capacité et la volonté de la Fed à tenir l'objectif sur l'inflation et donc potentiellement à maintenir des taux d'intérêt, un différentiel de taux avec le reste du monde assez élevé. Et puis en même temps, on vient de le rappeler, on a une croissance américaine qui se porte très bien. Donc on a les démoteurs assez habituels hein, de la vigueur du dollar, différentiel de croissance positif, en tout cas vis-à-vis de l'Europe et du Japon, différentiel de taux qui continue aussi à aller dans le bon sens. Je pense que quand même il reste une espèce d'inquiétude résiduelle sur le dollar autour des, comment dire, de la volatilité politique de la Maison Blanche, mais c'est vrai qu'on est plutôt dans une phase de dollar fort, et pour moi la clé, l'événement central, c'était vraiment le discours de Kevin Warsh lors de sa première présidence du FOMC.
Ouais, qu'on a beaucoup expliqué, analysé bien sûr depuis, c'était la semaine dernière. Wall Street, les États-Unis, on a beaucoup parlé de la force du dollar, du rebond en tout cas du dollar il y a un instant, et parallèlement l'Europe aussi en hausse sur les marchés, à la faveur cette fois de la détente, de la baisse des cours du pétrole, assez nette hein, cette baisse des cours, au point que tout à l'heure le Brent, Gilles, est passé sous ces niveaux de début de la guerre. On a retrouvé les cours d'avant-guerre en Iran sur le pétrole.
Oui, ça va très vite. Je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est que il y a une espèce de d'immunisation du marché vis-à-vis des comment dire, du bruit politique, du bruit autour des négociations. Moi, ça m'a beaucoup frappé, c'est le fait que, alors qu'on a eu entre guillemets un mauvais week-end de ce côté-là, avec l'annonce d'une refermeture par l'Iran, une escalade en tout cas verbale entre Washington et Téhéran, à la réouverture dimanche soir, et c'était quasiment rien passé. Et ça, je pense que c'est vraiment le signe d'un marché qui a décidé, entre guillemets, et c'est à mon avis assez rationnel, que comme ce fameux mémorandum entre l'Iran et les États-Unis est quand même, je pense, assez favorable aux intérêts iraniens, il n'y a finalement pas grand intérêt pour Téhéran de faire remonter la pression, en tout cas de manière forte, dans les semaines qui viennent. Donc ça se traduit par cette détente assez rapide des prix. C'est peut-être aussi un mouvement un tout petit peu exagéré. Je pense qu'on aura d'autres moments de bruit. Et puis il y a une vraie question qui se posera lorsqu'on sera sorti de la fameuse phase des 60 jours. Mais voilà, je pense que c'est le résultat de l'analyse assez froide du MOU.
Et pour l'économie européenne, cette baisse des cours du pétrole, c'est vraiment une manne, une aubaine importante. Ça va changer la dynamique de croissance ou pas tant que ça?
Non, c'est effectivement absolument important, avec le bémol que la croissance européenne ne se portait pas extraordinairement bien avant la crise du Golfe, donc pas non plus s'attendre à un redémarrage nécessairement sur les chapeaux de roue. Il faut vérifier ce qui se passe sur le gaz. Là, on a besoin d'un peu plus de réassurance du côté du Qatar et de sa vitesse de reconstruction hein, des champs qui avaient été très abîmés pendant les opérations militaires. Mais oui, c'est évidemment une très bonne nouvelle. Je répète ça partout et tout le temps. L'Europe paye, expédie vers le reste du monde tous les ans entre 2 et 3% de son PIB pour payer sa facture pétrolière et gazière. Donc toute baisse du pétrole et du prix du gaz a un effet absolument significatif sur la conjoncture européenne.
Gilles, comme le savent nos auditeurs réguliers, vous êtes basé à Londres. On sort du 10e anniversaire du Brexit, Keir Starmer donc sur le départ. On sent le pays économiquement avec un sentiment un petit peu inquiet, avec un petit peu d'appréhension. Comment vous sentez un petit peu l'état d'esprit des agents économiques britanniques?
Je pense que ce qui pèse énormément sur l'humeur, alors que les chiffres macro ne sont pas catastrophiques, on a une croissance faible, mais une croissance, il n'y a pas de risque de récession à court terme en tout cas. Les chiffres budgétaires britanniques sont plutôt meilleurs que les chiffres français par exemple. Mais on a un vague à l'âme qui, à mon sens, tient beaucoup à l'absence de narratif, pour utiliser un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'il manque, c'est une stratégie. C'est un pays qui avait une stratégie assez claire lorsqu'elle était dans l'Union européenne. Depuis le Brexit, c'est un pays qui a fait plusieurs tentatives, qui a expérimenté beaucoup, sans qu'on sache véritablement quel est le modèle de croissance finalement qui est maintenant recherché. Et comme on a eu en même temps, et on a vu encore une fois la semaine dernière, une volatilité incroyable de leadership politique, voilà, ce récit fédérateur manque encore. Donc, c'est pas tant, encore une fois, la conjoncture qui est médiocre, mais plutôt moins médiocre que sur le continent, mais c'est l'absence de cadre, des perspectives qui pèse beaucoup ici.
Gilles Mouek avec nous, chef économiste du groupe AXA. Merci beaucoup Gilles de nous avoir accompagnés. Le CAC est toujours en hausse, plus 0,8%. En ce moment, la Bourse de Paris et les banques américaines, elles réussissent leur stress test. Elles ont réussi, mais alors haut la main. John Plassard nous en parlait tout à l'heure dans USA Today. Cette séquence USA Today est disponible, ça y est, en replay. C'est une bonne nouvelle quand les banques américaines réussissent leur stress test. Citigroup est en hausse de 2% en ce moment. Bank of America gagne 1,5%. JP Morgan gagne 2% également.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et nous, les Européens, quelle souveraineté, comment la forger aussi grâce au marché? Bastien Jallet nous rejoint pour Eiffel IG. Bonjour Bastien.
Bonjour Guillaume.
On en parle énormément depuis des mois maintenant de la souveraineté. Ce thème est-il devenu aussi important pour les investisseurs que pour les États?
Alors il est vrai que pour que ce soit important pour les investisseurs, il était d'abord important que ce soit important pour les États. Et si on revient un peu en arrière, comment on en est arrivé là, pour que ce soit un thème important, il faut savoir qu'on était dans un monde depuis 30 ans qui marchait à peu près bien, ce qui reposait sur trois piliers: produire là où c'était le moins cher, aller chercher la technologie là où elle était la plus avancée, et des échanges commerciaux fluides. On a quand même eu une disruption de ce monde depuis quelques années, et on voit qu'il y a eu trois grands chocs qui ont permis peut-être cette prise de conscience. Le premier, c'est la crise Covid, où on a vu toute notre dépendance pharmaceutique à la recherche innovante pour sortir de cette crise. Le deuxième, c'est quand même la guerre en Ukraine qui a remis au centre du jeu et dans nos esprits la sécurité territoriale et la souveraineté territoriale qui n'était pas forcément assurée, en tout cas sur le très long terme. Et la dernière, c'est quand même les tensions entre US et Chine sur les technologies les plus critiques, où on voit qu'il y a une certaine forme de protectionnisme qui nous exclut. Et donc, ça a permis cette prise de conscience des différents États qui ont voté des budgets, qui ont voté des politiques, et ça valide le fait que ce soit pas un effet de mode, mais bien...
Oui.
Un thème structurel, et ça a rassuré les investisseurs.
Souveraineté, c'est de la défense ou c'est aussi beaucoup d'autres choses que la défense?
C'est aussi beaucoup d'autres choses. La défense, c'est certes la partie visible de l'iceberg, et c'est, j'ai envie de dire, la première partie à laquelle on pense quand on pense souveraineté. Mais je dirais que là, il y a trois grands piliers dans la souveraineté quand on veut la jouer. C'est la défense et les technologies critiques. Donc, la cybersécurité, les logiciels, la défense, les composants critiques. C'est aussi la souveraineté dans la santé, parce qu'on a besoin de recherche pharmaceutique et de capacité de production pour avoir une certaine résilience. Et enfin, un thème qui va parler à tous, c'est quand même la réindustrialisation de nos économies, où on voit que les gouvernements se disent c'est peut-être fini le temps de la politique d'aller vers le moins cher, et la résilience, même si elle a un coût, est importante. Et du coup, on préfère réindustrialiser à un coût peut-être un peu plus important, mais ça nous permet d'anticiper, ou en tout cas de moins mal vivre ces différents temps de crise.
Alors, on voit que stratégiquement, vous êtes plutôt centré sur les small et mid cap. C'est un choix délibéré. Ça fait aussi partie de la stratégie?
Ouais, c'est un choix délibéré, parce que quand on parle de souveraineté, concrètement, on va peut-être avoir en tête les très grands noms dont vous parez assez souvent, les Thales, Dassault Aviation et autres, pour parler de souveraineté. Mais finalement, les small and mid cap, ça permet de jouer des briques peut-être plus pures, parce que dans ces grands groupes, l'aspect souveraineté, il est peut-être dilué par d'autres activités, alors que les small and mid cap, elles forgent leur expertise sur une ou plusieurs technologies critiques qui leur permet d'avoir des barrières à l'entrée, une propriété intellectuelle assez importante. Et du coup, ça fait des acteurs plus purs. Et le dernier point pour jouer les small and mid cap, pourquoi jouer les small and mid cap sur la souveraineté, oui, c'est que les politiques publiques, elles vont se diffuser partout dans l'économie, et celles qui en profiteront le plus, de par leur taille peut-être un peu plus intermédiaire, eh ben, c'est les small and mid cap.
Donc, alors, lesquelles? La question, c'est lesquelles? Vous croyez dans quel small and mid cap pour investir la souveraineté européenne?
J'ai dit qu'il y avait trois grands axes dans la souveraineté. Et nous, oui, chez Eiffel, il y a trois sociétés qu'on aime beaucoup. Et la première, peut-être, Cocorico, Exosens, qui est une société française, très belle société française dans l'optronique. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font? C'est le leader mondial sur les technologies de vision nocturne, donc pour les soldats, mais aussi les caméras qui permettent les systèmes anti-drones. J'ai pas besoin de vous raconter pourquoi on a besoin de vision thermique, pourquoi on a besoin de systèmes anti-drone, et donc on a besoin de cette protection d'investir dans des sociétés comme Exosens, d'autant plus que en étant un leader mondial, elle bénéficie évidemment des budgets militaires qui sont en forte hausse. La deuxième, j'en ai déjà parlé sur cette antenne, c'est la souveraineté sanitaire via Sobi, Swedish Orphan Biovitrum, une société suédoise qui est spécialisée dans les maladies rares. Les maladies rares, il y a une prévalence de plus en plus importante, et donc il est très important pour nous d'avoir de la recherche pharma dans notre continent, de la production pharma dans notre continent, pour justement être plus résilient face à ces prévalences qui sont beaucoup plus importantes.
Comment elle s'appelle cette valeur-là?
Swedish Orphan Biovitrum. D'accord. Sinon, c'est Sobi. Et la dernière, peut-être la moins connue de toutes celles-ci, c'est en Italie, c'est Danieli. Danieli, c'est le leader mondial des équipements sidérurgiques. Concrètement, on a parlé de réindustrialisation. L'acier, c'est quand même au centre de beaucoup de besoins, de beaucoup de secteurs. Quand on a besoin de produire de l'acier, on va voir Danieli qui donne des usines clés en main pour produire de l'acier et de l'acier décarboné. Donc, ils sont compétitifs sur les prix, ils sont très compétitifs sur la production de CO2. En tout cas, l'acier produit avec leurs produits est bien inférieur et du coup, ça permet de jouer aussi ce thème réindustrialisation.
Trois valeurs, et donc on peut jouer la souveraineté européenne à travers les small et mid cap. Vous n'avez pas cité le slip français, mais le slip français va s'introduire en bourse aussi. Est-ce que c'est une valeur souveraineté, tiens, le slip français par exemple?
C'est une valeur souveraineté, elle va s'introduire en bourse normalement, ouais. Cocorico le 14 juillet, c'est une très bonne idée je trouve, mais c'est une société qui produit du Made in France à Aubervilliers. On a eu la chance nous de faire une visite de site, très belle société, et ça fait partie, alors dans le textile, mais je crois qu'il faut savoir protéger aussi nos industries textile comme le slip français, et donc c'est important aussi de regarder cette IPO à venir.
Voilà, elle sera toute petite bien sûr, hein. Peut-être 12-15 millions d'euros, on verra. Mais intéressant là, effectivement, parce qu'on a une entreprise industrielle, hein, c'est du textile qui parvient à fabriquer en France. Donc là, il y a un symbole, et on peut financer cela aussi par notre argent plutôt que d'aller mettre tout dans SpaceX. Ah, c'est pas SpaceX le slip français, on est bien d'accord.
Non.
Ça fera moins rêver la planète. Mais
un jour, Mistral viendra, oui, je l'espère.
Le produit est utile, hein, voilà.
Exactement. Oui. J'espère que Mistral viendra, que les particuliers comme les institutionnels pourront y participer et qu'on pourra financer cette belle souveraineté européenne.
Et que Mistral choisisse surtout la Bourse de Paris et surtout pas Wall Street, on l'espère. Bastien Jallet avec nous aujourd'hui, FLIG. Merci beaucoup, Bastien.
Merci.
Wall Street, justement, c'est une petite hausse, 0,3% de hausse, le S&P. Mais alors, Nasdaq, lui, est en retard. On en parlait tout à l'heure, hein. Les hyperscalers sont en train de souffrir du côté de Micron après son incroyable publication. Eh bien, ce titre Micron qu'on suit de près gagne encore 10% en ce moment. Il gagnait 20% à l'ouverture. Là, on est à plus 10 sur Micron. On vous rappelle, hein, sur un an, le titre a fait x9, c'est énorme, mais les bénéfices, eux, ont fait x15, c'est encore plus énorme. On s'en reparle dans un instant. A tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
C'est la famille BFM Bourse, chaque jour, le seul endroit au monde où vous choisissez vraiment votre famille. Julien Marion est avec vous, bfmbourse.com. Bonjour Julien.
Bonjour Guillaume, bonjour Antoine, bonjour.
Oui, bonjour. Antoine est là aussi, bien sûr, en fil rouge. Salut Antoine. Et bonjour. Romain Daubry. Romain Daubry pour Bourse Direct, ici en plateau à Paris. Bonjour Romain.
Bonjour Guillaume.
Vous cherchiez la clim, c'est ça?
Eh, c'est pour ça que je suis venu.
Ouais, je me doute. Hein. On parlera dans un instant du potentiel technique des marchés. D'abord, bah, cette ambiance, cette séance, Julien, Antoine, Romain aussi, comment vous la vivez, Julien? On a un CAC en hausse aujourd'hui, c'est pas mal, mais un Nasdaq qui lui recule, c'est une petite surprise.
Normalement, on est sur une séance où on bénéficie toujours en fait d'un contexte macroéconomique qui est plus favorable. Là, on a le pétrole qui continue de baisser. On est passé sous, au niveau du Brent, sous le cours antérieur à la crise au Moyen-Orient. C'était 72,43, si ma mémoire est bonne, pour le baril, ça peut à quelques centimes près. Donc, on est maintenant sur un environnement plus favorable du point de vue macro, parce qu'en fait, tout ce qui est crainte stagflationniste qu'on a eu il y a 3 mois, en fait, elles sont en train de s'atténuer. Malgré cela, il y a un autre facteur très puissant qui est le trade IA. Donc, l'investissement, va-t-on investir encore sur les valeurs IA? Vous voyez très bien, et vous en parliez avant, qu'en fait, on est dans la nervosité la plus totale. Micron a délivré des super chiffres, très bien. Plus 20, plus 10. STMicro, Soitec, qui flambait un peu ce matin.
Non, et ça a ouvert à plus 20 Micron, maintenant c'est plus qu'à plus 10. On a divisé les gains par 2.
Fait,
ça monte quand même cette fébrilité. Alors après, le titre avait fait x9 en un an. Bon,
non, d'accord, mais en fait, c'est finalement tous les gagnants de l'IA de second ordre, hein, après, puisque depuis Nvidia, on est passé un peu sur les semis, les semis plus larges. Et vous le voyez très bien, en fait, sur la côte parisienne, Antoine. Est-ce que STMicro et Soitec sont toujours autant en hausse que ce matin? Je crois pas.
Bah non, pas du tout. Justement, voilà. Il y a eu un énorme décalage. Infineon, même chose. Vous regardez les courbes en intraday. Il y a un plongeon, aux alentours de 16 heures. Et là, on sent que c'est de la technique. C'est là, vous parliez de la macroéconomie. Là, c'est plutôt la micro-économie.
Oh, joli.
On se fait des petits allers-retours là, d'un jour sur l'autre et même d'une heure sur l'autre. Et c'est assez étonnant. Parallèlement, il y a dû se passer un truc un petit peu plus profond parce que c'est précisément le moment où le Bitcoin a totalement lâché les 60 000 dollars aussi. Hein. On est allé taper les 58. On remonte un petit peu à 59. Il s'est passé quelque chose. Alors, oui, on a Zero Edge qu'on suit de temps en temps sur Twitter qui dit « What a bit of a rollover ». En gros, voilà, il y a des positions en intraday qui se rachètent les unes les autres, ce qui peut provoquer ces turbulences. Et on peut prévoir que ça arrivera véritablement en intraday tout l'été, hein, ces affaires-là. Il y a IBM aussi qui, dans ces eaux-là, a annoncé une nouvelle technologie super puissante pour concurrencer un peu les hyperscalers sur les semi-conducteurs. Tout ça mélangé, ça donne des investisseurs très nerveux qui sont prêts à brûler les idoles d'avant-hier.
Ouais. Sur Micron, incroyable hein, quand même. x9 en un an le titre, mais les bénéfices encore mieux, x15 les bénéfices. Donc en termes de PE, c'est pas... enfin, les choses peuvent se justifier quoi, en termes de performance boursière. On entend beaucoup dire « Ah, mais Micron, ça va beaucoup trop vite ». On voit que les bénéfices vont encore plus vite. Donc voilà, et les analyses sur tout ce plan, Julien, faites pas cette air un peu faux ou courroucé parce que ça passe très mal en télé. Qu'est-ce qui se passe?
Ça passe mieux le sourire.
Ah oui, bah, c'est... oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, c'est juste que sur des valeurs comme Micron, je pense qu'on regarde davantage. Vous parlez des bénéfices, et c'est vrai qu'une valorisation, c'est un cours rapporté, c'est un prix par rapport aux bénéfices par action. Mais je pense que sur Micron, on regarde davantage en fait la dynamique de revenus. Et ce qui fait en fait qu'ils flambent, c'est peut-être plus leur prévision pour le trimestre actuel que le bénéfice x9.
Ouais.
Et le problème, c'est que ça marche sur un effet momentum. Et le momentum, il peut s'affaisser pour des raisons simples. Vous parliez de 16 heures.
C'est l'industrie cyclique. Hein,
tout à fait. Vous parliez de 16 heures, Antoine. 16 heures, il n'y avait pas les ventes de... Il n'y avait pas un indicateur américain, il me semble.
Il n'y avait pas de gros indicateurs américains.
D'accord, je croyais qu'il y avait les ventes de maisons anciennes.
Oui, j'y pensais aussi. C'était peut-être un impact, un chiffre de seconde zone, possible aussi. Ouais. Hein.
Mais par exemple, Micron, la question que soulève cette publication, c'est que font les analystes quand même? Parce que la publication est 20% supérieure à ce qui était attendu. Que font les analystes? Et on se souvient qu'au premier trimestre aussi, les analystes ont été largués par les publications des entreprises américaines, bien supérieures aux attentes. Quoi. Que font les analystes?
Ceux de JP Morgan, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont relevé du double leur objectif de cours sur Micron, du coup.
Ah bah oui.
Ils n'avaient rien anticipé, visiblement.
Romain est avec nous, donc Romain Daubry pour Bourse Direct. Les forces dans le marché, là, les forces en présence, comment vous les sentez aujourd'hui, Romain?
Pas mal d'éléments à donner. Et déjà, en termes d'intérêt et de force, il faut rappeler qu'on entame une nouvelle échéance, une échéance trimestrielle des marchés dérivés. C'est souvent un pivot. On l'a vu au mois de mars dernier, hein, la semaine qui a suivi l'échéance du mois de mars, ça a été le point de départ du tonitruant rebond, notamment des marchés américains. Ça a été plus calme chez nous en Europe. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a eu un tout petit pivot qui s'est mis en place sur l'indice Eurostock 50 à ce moment-là. On a été très complaisant, on l'évoquait ensemble en début de semaine. Ça s'est traduit par un petit trou d'air assez marqué dès le lendemain. Un gap baissier, une structure qui peut se mettre en place de retournement sur l'indice Eurostock pour une consolidation de l'ordre de 5-6% de ce côté, donc sur nos marchés européens. Donc attention, pour l'instant, on tient plutôt bien. Le support important, c'est 6200 points, 6202. Et la résistance, c'est 6250. Donc, on est entre ces deux eaux. Attention à la rupture de ce niveau-là, ça pourrait accélérer. Et en même temps, sur les indices américains, pivot de marché aussi. Et on voit des changements de comportement assez nets. Vous l'écriviez tout à l'heure. Et ce que je peux apporter à ça, c'est que les dégagements qu'on a vus sur la tech américaine avant la publication de Micron, donc au cours des deux dernières séances, sont quand même assez marqués. Il s'est passé quelque chose, il y a un vrai changement de tempo ici. On a vendu avec du volume qui a augmenté aussi, donc attention à ça. Et on parlait non pas de complaisance, pas aussi marqué que sur l'indice Eurostoxx, mais d'optimisme. Donc on a quand même un terrain qui est un peu glissant. On est en pause sur le Nasdaq 100 depuis dans la fin du mois de mai, mais on voit qu'il y a des gros acteurs qui sont sortis du marché. Et puis, bah, vous l'écriviez à l'instant, toutes les GAFAM, donc toutes les vieilles techno,
sont déjà vieilles, les pauvres. Ça va vite.
Et en revanche, Micron a effectivement réduit ses gains aussi. Donc, on a des acteurs qui profitent de ces rebonds et de ces excès pour sortir du marché. Donc, prudence de ce côté-là, on n'a pas de structure de retournement pour l'instant. Ce qu'on peut dire aussi, en revanche, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur les cycliques, des choses plus défensives qui se sont mises en place. On l'a vu hier aussi, des valeurs comme Accor, notamment qu'on a vu payer au AXA, qu'on avait évoqué ensemble récemment. Je vois AB InBev qui se comporte bien aussi, par exemple.
Et Accor, vous le citez, c'est peut-être la... Non, Accor, c'est sur un plus haut historique. C'est un record aujourd'hui pour le titre Accor.
Mais sans doute, c'est la plus forte hausse du CAC, d'ailleurs.
Ah bah voilà.
Tiens, puis il y a Trigano aussi sur le SBF.
Ça se confirme donc aujourd'hui. Donc peut-être un petit changement de tempo, c'est plutôt bon signe parce que ça fait juste une pause manifestement dans le marché ou une rotation. C'est pas une structure de retournement de long terme, mais on est en train de manifestement arbitrer.
Alors Romain, vous parliez d'AB InBev, mais on va rester sur les produits à la fois de saison et à consommer très raisonnablement, parce que c'est pas très bon quand c'est la canicule. Mais AB InBev, il y a une structure graphique qui vous intéresse visiblement.
Oui, effectivement. Alors on l'avait évoqué ensemble il y a quelques temps, je reprends mes notes, j'étais un petit peu en retard là-dessus, mais AB InBev, elle a rien fait pendant des années, entre 2021 et cette réactivation haussière du début d'année. Elle a débordé cette résistance qui se situe autour de 60. Donc on a un mouvement relativement important qui peut se mettre en place et qui se confirme ici, avec des extensions qui peuvent mener le titre jusqu'aux alentours de 90. Donc encore un peu de place pour AB InBev qui s'est vraiment réveillé après une longue pause. Ce sont des structures de retournement de long terme qui sont assez lentes, mais qui sont assez significatives. Ça fait partie des arbitrages un peu défensifs qui paraissent être intéressants pour le moment, et intéressant alors qu'on arrive à la fin de la saison, toute fin des saisons de publication, et qu'on n'aura pas beaucoup de drivers de ce côté-là avant la moitié du mois de juillet. Donc peut-être des choses un peu plus défensives à faire dans ce marché pour l'instant.
Ouais, c'est intéressant de regarder l'évolution effectivement de ces brasseurs, ces grandes sociétés-là en période de canicule. Est-ce qu'elles souffrent? Vous avez rien de particulier? Est-ce qu'un Heineken, est-ce que toutes ces valeurs-là souffrent en période de canicule, ou au contraire, faut se rafraîchir et puis on boit un peu de tout? Bon,
je sais pas. Ça, je ne saurais pas le commenter, mais on peut imaginer que les gens s'hydratent plus, donc la bière peut avoir plus de succès en ce moment.
Ouais. Ah, qui sait, hein. Romain, vous restez avec nous, voilà. Cette famille BFM Bourse, elle se poursuit, et jusqu'à 17h. Et vous tous qui nous écoutez ou nous regardez, faites partie de cette famille. Vous savez que chaque jour, on vous challenge sur les réseaux sociaux, notre fil X ou LinkedIn, BFM Bourse. Voici la question du jour, le pétrole, donc, qui recule? On est à $73 pour le baril de Brent. Et les cours tout à l'heure sont passés même sous leur niveau d'avant la guerre. Enfin, on a retrouvé les niveaux d'avant-guerre sur le pétrole, d'avant la guerre en Iran. Pour vous, cette baisse des cours assez spectaculaire est-elle excessive, logique ou amenée à durer, la baisse des cours? C'est la question qu'on vous pose sur nos réseaux. Julien.
Elle est un peu logique parce que forcément le détroit d'Hormuz rouvre et donc on anticipe. Maintenant, moi je pense qu'elle est excessive, qu'on a mis la charrue avant les bœufs. C'est pas logique qu'on retrouve les cours d'avant cette crise incroyable qui dure toujours quelque part, parce que les accords de paix sont toujours en négociation. En même temps, c'est oublié, il peut y avoir des accros. Ça peut influer sur le marché, même si pour le coup, ça marche bien dans les trois d'Hormuz. Il faut reconnaître que le trafic marche bien. Mais elle est excessive pour une raison simple, c'est qu'elle a créé un précédent. La fermeture du détroit d'Hormuz, c'est quelque chose qui était inenvisageable auparavant. Aujourd'hui, on a vu, ça peut durer plusieurs mois. Ça existe. C'est un signe noir qui est devenu blanc.
Oui. Mais après, on a aussi vu que c'était pas la fin du monde. Enfin, bien sûr, ça a tendu les cours, etc. Mais on a aussi pu voir que c'était pas complètement la fin du monde annoncée. Parce qu'à un moment, le détroit d'Hormuz a fini par rouvrir. Il est en train de rouvrir, en tout cas. Faudrait pas que ça s'éternise, on est d'accord.
Vous avez raison, Guillaume. On est quand même monté jusqu'à quasiment $120 le baril. Bon, on va pas se mentir. Il y a une prime de risque qui doit être intégrée, même si elle est de quelques dollars. Ouais. Dans les cours du baril.
Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré, c'était il y a quelques heures, que les flux transitant par le détroit d'Hormuz sont désormais proches de ceux enregistrés avant le début de la guerre en Iran. Voilà ce qu'il dit. De son côté, Oman a ouvert des routes maritimes temporaires pour faciliter le départ des pétroliers du détroit. Antoine.
Oui, elle est parfaitement logique. Pour autant, c'est dramatiquement inquiétant ce qui est en train de se passer. Alors, on se souvient de cette stat qu'on donnait au début de la guerre. Hein. Oui, c'est vrai, il y a 20% du pétrole mondial qui passe par le détroit d'Hormuz, ce qui veut dire qu'il y a 80% du pétrole mondial qui passe par autre part et tout se passe bien. Maintenant, ça crée un précédent très gênant. La situation géopolitique dans le coin, de toute manière, elle ne sera jamais calme et elle le sera encore moins après ce qui s'est passé. Donc la réaction, elle est peut-être logique, mais c'est ce que tu disais, c'est un signe noir qui est devenu blanc. Il faut prendre en compte ça dans les cours et ça va devenir un élément de volatilité qui n'existait absolument pas avant.
Pour vous qui nous suivez, cette baisse quand même impressionnante des cours du pétrole, on est revenu au cours d'avant la guerre en Iran. Est-elle excessive ou pas? Logique, amenée à durer? Vous êtes une majorité, 74% à la juger logique cette baisse dans cette ampleur. Vous, Romain, d'un point de vue graphique, le pétrole, est-ce que vous trouvez qu'il a des raisons de continuer à baisser?
Alors, des raisons de continuer à baisser graphiquement, je ne suis pas certain. Alors, on a été comblé ce gap haussier qu'on avait laissé ouvert au moment de l'annonce de la fermeture du détroit d'Hormuz. Si je prends le Brent, un petit peu au-delà des 72, 73,50, on a rebondi pour l'instant. On s'est arrêté de baisser sur ce niveau-là. On peut quand même constater que le mouvement de hausse s'est formé avec des volumes très significatifs et que le mouvement de baisse s'est fait plus sous forme de consolidation. On baisse avec des volumes qui sont relativement modestes, même si on a beaucoup baissé. Donc, pour l'instant, c'est un prix de stabilité. On n'a évidemment pas de signal de retournement à la hausse, mais on n'a pas d'éléments qui nous indiquent que le pétrole continue fortement à baisser dans le contexte actuel. On est revenu à des niveaux d'équilibre, mais qui sont quand même relativement tendus. Il faut rappeler aussi que le pétrole, avant ce mouvement, avait quand même déjà commencé à progresser et qu'on ne revient qu'au niveau de l'annonce de la fermeture du détroit et pas au niveau qui précédait à la fin de l'année 2025. Donc on est quand même un petit peu plus tendu que précédemment.
Effectivement, mais tant mieux hein, pour les énergies renouvelables, par exemple. Il faudrait éviter d'avoir un pétrole qui retombe aussi bas qu'il y a un peu plus d'un an, par exemple, hein, pour laisser la compétitivité du côté des énergies renouvelables et pas participer à encourager la transition dont on a besoin. Le CAC est en hausse de 0,6%. Julien, une action fait débat. L'Oréal, Deutsche Bank est récemment passé à la vente sur L'Oréal, alors que Citi n'est pas du même avis, en l'occurrence. C'est ça ?
Tout à fait.
Bien dit les choses. Donc, ils ne sont pas d'accord sur L'Oréal, Deutsche Bank et Citi. Qu'est-ce qui se passe ?
Je ne vous ai pas aidé parce que je me suis trompé dans le lancement que je vous ai fait. Je crois qu'on peut le dire à nos auditeurs.
Rattrapé.
Voilà, mais bravo, Guillaume. Oui, alors, on va faire, si vous voulez, argument par argument. Ouais. Qu'est-ce que vous dites, Deutsche Bank ? Ils vous disent que L'Oréal, en fait, ça risque d'être compliqué sur la seconde partie de l'année simplement parce que la croissance va ralentir. On va être autour de 6% au premier semestre, ça va. Mais sur la seconde partie de l'année, on sera plutôt autour de 4%. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont gardé les données sur le crédit en Chine, ils voient un tassement, ça et moi. Ensuite, il y a beaucoup d'événements, en fait, qui sont bons pour les ventes de L'Oréal, les Amazon Prime Days qui ont lieu en ce moment, des événements chez Walmart, notamment, et aussi la Coupe du Monde de football. Hein, on parlait d'Heineken avant, je crois que c'est un peu lié à ça aussi. Donc, tous ces événements font que, d'après eux, il va y avoir des ventes anticipées au premier semestre, qui fait qu'au second semestre, il y aura moins de ventes. Et donc, comme L'Oréal, c'est une valeur qui fonctionne beaucoup sur la dynamique de croissance, eux, ils anticipent un tassement. C'est pour ça qu'ils sont arrivés a décidé qu'il fallait désormais vendre l'action. Parce que vous avez cette inflexion.
Deutsche Bank passait à la vente sur L'Oréal, alors que Citi, au contraire, passe à l'achat. Que dit Citi ?
Alors eux, juste, et c'est intéressant, ils vous disent qu'il y a un ralentissement au second semestre. Mais ce qu'ils vous disent, c'est qu'en fait, L'Oréal a suffisamment éduqué le marché pour que ce ne soit pas catastrophique. Par ailleurs, le ralentissement, ils estiment qu'il sera lié en fait, à des bases de comparaison. Donc en fait, il n'y aura pas, entre guillemets, mort d'homme. Par contre, il y a quelque chose qui va changer la donne, c'est l'intégration qui a eu lieu depuis mars de Kering Beauté. Vous savez, L'Oréal avait racheté à Kering, les licences de parfum. Donc vous avez Creed, vous avez Balenciaga et Bottega Veneta, et ils auront normalement à partir de 2028 Gucci dans leur giron. Donc la thèse de Citi, c'est que cette acquisition va augmenter la croissance structurelle de L'Oréal. L'Oréal, c'est entre 4,5 et 5,5 de croissance par an. D'après eux, à partir de 2027-2028, on sera entre 5,5 et 6,5. Donc un point de croissance gagné grâce à cette acquisition, ce que le marché n'a pas encore pris suffisamment sérieux selon eux.
Oui, deux avis un peu divergents sur L'Oréal et la synthèse dans cet article bfmbourse.com. Notre CAC est en hausse de 0,6% et chaque jour, on accueille un expert de marché pour évoquer les grandes perspectives. Aujourd'hui, c'est Bertrand Lecourt qui nous rejoint, gérant du fonds Regnant Logistics & Mobility. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Les enjeux d'avenir, c'est pas que l'IA, c'est aussi les enjeux de mobilité et de logistique. Alors dedans, on imagine qu'il y aura un peu d'IA aussi quand même. On en voit quelques exemples, mais quels sont les enjeux liés à cette thématique de la mobilité et de la logistique? Est-ce que vous avez des chiffres forts à nous apporter qui nous montreraient, nous démontreraient la profondeur de ce marché-là ?
Oui, c'est un marché qui est énorme. On le s'en rend pas compte, il est un peu invisible, mais ça part dans l'économie mondiale. C'est à peu près 15 à 20% de l'économie mondiale, qui est de 111 trilliards d'économie mondiale elle-même. Et ça, c'est à peu près entre 16 et 20 trilliards de taille. On s'en rend pas compte parce que c'est très fragmenté. Donc c'est 2 à 3 fois plus gros que la partie tech en termes de revenus, pas de valorisation. Et c'est vraiment ce qui fait tourner en fait la richesse mondiale. S'il n'y a pas de transport, il n'y a pas de richesse. Et on est à des points d'inflexion. Donc c'est à peu près un univers d'investissement de 1600 valeurs. On fait un focus sur les 600 meilleurs, 50 dans le portefeuille. Et on va dissocier dans la chaîne de valeur de mobilité et de logistique. C'est la mobilité, bouger les gens, la logistique, bouger les biens de consommation. Et puis tout ça, c'est toute une chaîne de valeur importante qui nous permet d'avoir une croissance complètement diversifiante dans le marché actuel.
Julien.
Alors, on parlait d'un point d'inflexion qui survient, parce que ça, c'est tout l'enjeu de la thèse. Pourquoi est-ce qu'on reviendrait ? Pourquoi est-ce qu'on investirait maintenant dans la mobilité, la logistique, a fortiori grâce à l'IA ?
Grâce à l'IA, il y a des changements de comportement. Donc, il faut regarder la grande image du monde entier, c'est qu'il y a eu 30 ans de globalisation, on rentre maintenant dans une phase de consolidation. Consolidation, on voit que les échanges vont changer entre les États-Unis, plutôt de partir est-ouest, on va faire nord-sud, partir avec la Chine, c'est Chine plus 1, et on a la partie reshoring, depuis le Covid, on a toute la consolidation en fait de la chaîne de valeur et du supply chain. Et puis, les chocs technologiques, c'est vrai, c'est pas que l'IA, mais c'est l'information en temps direct. Ça prend toujours une heure pour traverser Paris, mais par contre, on sait à peu près par quel chemin passer. Donc, énormément d'informations consommation et sous nos comportements aussi. Maintenant, Amazon a tué la rue commerçante des villes, l'a monopolisée, mais derrière, on a, par exemple, nous, on va commander sur Uber, c'est mobilité comme un service pour se déplacer, on va faire nos bookings sur Expedia, on va commander notre nourriture directement. Donc, les comportements sont changés sur la consommation, mais aussi sur le mode de transport qui vont permettre à tous ces biens de circuler.
Alors, pour ceux qui investissent, quel est le rapport risque-opportunité ?
Alors, ce qui est très important pour les fonds que nous faisons, c'est vraiment pas des fonds gadgets, ce sont des fonds qui sont tirés par des fondamentaux de long terme. Donc, une des caractéristiques de ce fonds, c'est le biais diversifiant. C'est pratiquement que des entreprises qui sont industrielles et des entreprises qui sont liées à la consommation. Donc, c'est toute la chaîne de valeur des entreprises qui créent les modes de transport. Camions, bateaux, rails, etc. Et toutes les entreprises qui vont opérer ces modes de transport. Donc il y aura un biais, je dirais, plus sectoriel, qui est l'opposé de ce que vous avez dans vos portefeuilles aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que de la tech, c'est beaucoup de services à l'énergie, de financiers. Donc quand il y a ce retournement qui risque d'arriver, c'est très important. 6 trilliards de création de valeur, pratiquement liée au trade de l'IA à 100% sur les marchés. Quand ça se retourne, cet argent va revenir dans l'économie réelle, soit par la partie boursière, soit par tous ces 35% de retail qui vont dire on a fait de l'argent, on va changer de voiture, on va réparer notre maison. Et tout ça, c'est toute l'économie réelle qui bouge. Donc, comment être exposé à un rebond de l'économie réelle ? C'est le fonds qui est vraiment lié au commerce.
Oui, alors justement, quelles sont les valeurs dans lesquelles vous croyez pour continuer d'investir dans la logistique, le commerce, le transport, qui, c'est vrai, sont le nerf de la guerre. On parle tout le temps d'IA, mais sans ce dont on est en train de parler, il ne se passera rien dans le monde.
Donc. Exactement. Alors, c'est intéressant de se dire, si on décompose, en fait, les modes de transport. Donc, on va éviter tout ce qui est très cyclique ou tout ce qui est price taker. Oui. Donc, dans l'automobile, on ne va pratiquement rien avoir. On a un champion qui est Geely ou BYD, mais on va faire plutôt un focus sur ces entreprises qui sont très stables, sur des types de monopoles. Par exemple, aux États-Unis, tout le monde connaît les bus scolaires jaunes dans tous les films qu'on a vus, etc. Il y a quatre joueurs qui font ça. Il y a une entreprise qui s'appelle BYD, qui non seulement remplace ses camions, ses bus.
Le chinois BYD.
Pas BYD, pardon, Bluebird. J'ai fait un lapsus. Oui. Bluebird, une entreprise américaine. Et donc, tous les bus scolaires, une partie va être remplacée par des bus électriques, avec une meilleure profitabilité, meilleure valorisation. C'est bipartisan, donc on voit une belle croissance. Donc ça, c'est l'exemple type sur la partie...
C'est bipartisan, qu'est-ce que vous voulez dire ?
Je veux dire, par là, c'est pas parce que on va avoir les démocrates ou les républicains qui sont au pouvoir que ce train va changer.
Il y a vraiment... transpartisan.
Pardon.
Oui,
par là,
les deux parties... indépendant de la politique.
Voilà, c'est pas indépendant de la politique.
C'est important, c'est vrai.
C'est important pour qu'on essaie de sortir justement tout ce qui est offre-demande, tout ce qui est vraiment commodité, etc. Donc, c'est le type d'investissement qu'on va faire sur la partie, je dirais, OEM.
Bluebird, première idée, oui.
Voilà, Bluebird, très belle, j'ai fait plus 50% récemment et je pense que c'est très bien orienté. En plus, c'est vraiment la facilitation de l'accès aux services les plus importants, en fait, à les écoles. Et puis, la deuxième partie, par exemple, dans les opérateurs de transport, on s'aperçoit qu'il y a un cycle aujourd'hui. On a maintenant la pollution industrielle qui redémarre depuis cette année. Donc, on a l'économie réelle qui redémarre de façon assez forte. On le voit pas, c'est un peu masqué par l'IA sur les marchés, mais derrière, ça tourne. Et donc, comment on crée la chaîne de valeur? Eh bien, depuis le Covid, il y avait une surcapacité de transport qui est maintenant résorbée. Donc, les compagnies de transport comme Old Dominion ou Saia, on va voir l'activité de trucking qui augmente. Plus l'effet prix, plus l'effet levier, ils ont de l'argent, ils vont faire des commandes sur Packard ou Volvo, qui vont faire des commandes sur Cummins, tout ce qui est châssis et moteur, et on a toute la chaîne de valeur qui repart. Donc, ces entreprises qui sont plutôt stables, avec une bonne visibilité, plus de 20% de retour sur action, double chiffre de croissance, pas de dette, complètement sous les radars, et donc le point d'inflexion, si le marché se retourne, comment jouer cette histoire ?
Packard, P-A-2-C-A-R, pour ceux que ça intéresse, et Cummins, vous avez cité
Cummins.
C'est voilà. Coté aussi. Hein.
Coté aux États-Unis.
C-U-2-M-I-N-S.
Exactement.
Allez, une petite dernière, il reste 30 secondes à peine, une petite dernière valeur.
Petite Verlavalo, bien française, il y a ID Logistique aussi, qui est un petit fleuron français, qui marche bien, qui est vraiment toute l'histoire de la logistique française. Il faut vraiment ignorer tout le bruit de court terme, je pense que c'est des valeurs qui ont vraiment de l'avenir.
Ben voilà, quelques idées pour investir dans les transports et la logistique. Bertrand Lecourt, il nous reste 3 minutes à passer ensemble en famille. Et on a un nouveau membre là qui nous rejoint, c'est Yannick Lopez, directeur des gestions de taux, solutions de trésorerie d'Ofi Invest. Bonjour Yannick, ravi de vous retrouver.
Bonjour.
On va parler ensemble justement de ce que les entreprises ont dans le ventre et ces signaux sous-jacents qu'on voit le marché obligataire hein, sur les perspectives de croissance, mais aussi d'inflation. C'est la grande question, va-t-on vers une accélération de l'inflation ? Ben, vous avez trouvé un chiffre peut-être qui va nous en dire long sur... les perspectives que le marché trouve à l'inflation. Ce chiffre, c'est 2,3%. De quoi s'agit-il ?
Oui, bah 2,3%, c'est l'inflation anticipée en zone euro sur les 12 prochains mois qui viennent. Et c'est intéressant d'en parler un peu de ce chiffre parce que sous l'effet de la chute du pétrole, les marchés, ils réajustent leurs anticipations. Le pétrole, vous le savez, il a rendu 40% depuis son pic à $125. On est où là? On est à $73, c'est-à-dire à $3-4 à peu près du niveau pré-guerre. Du coup, les anticipations d'inflation à 12 mois, qui étaient montées jusqu'à 4%, se réajustent et reviennent sur des niveaux de 2,3%. Donc, assez grosse correction. Après, c'est intéressant quand même de voir qu'à 2,3%, il reste encore un gap, il reste encore un écart entre ce niveau et ce qui était anticipé par le marché fin février, puisqu'on était sous les 2%. Ça veut donc dire quelque part que les marchés estiment que l'onde de choc provoquée par la hausse de l'énergie, même si on est revenu quasiment au point de départ, va coûter environ 50 centimes d'inflation supplémentaire en moyenne sur les 12 prochains mois, 50 BP. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est d'essayer de regarder un petit peu au-delà. Et là, on va constater que les marchés sont convaincus que c'est un effet qui est très temporaire. Parce que si on se projette dans un an et qu'on regarde l'anticipation dans un an sur les 12 mois qui vont suivre, on voit que l'inflation, elle est revenue quasiment à son point de départ pré-guerre autour de 2,15%. Donc on est vraiment sur une espèce de bump et de retour quasiment à la normale.
Donc Yannick, on revient à la fameuse question originelle. Est-ce que la BCE a pas fait une erreur de politique monétaire en relevant ses taux d'intérêt? Du coup, là, on peut vaguement anticiper qu'elle fera plus rien avant un très très long moment.
Oui, alors c'est vrai que c'est la question que beaucoup de gens se posent, avec vraiment un débat très ouvert. Hein. Des gens sont convaincus qu'effectivement elle a bien fait et d'autres que c'était pas forcément nécessaire. La BCE, on sait tous, vous le savez aussi bien que moi, elle a sa fonction de réaction. Sa fonction de réaction, c'est ancrer les anticipations d'inflation, c'est son mandat. Au début, elle a fait plutôt preuve de patience, si vous vous souvenez les propos de Madame Lagarde. Elle a fait preuve de patience parce qu'elle sait, comme vous et moi, que c'est pas en montant les taux d'intérêt qu'on réouvre un détroit qui laisse passer 20% du pétrole. Le problème, c'est que face à l'enlisement du conflit, je pense que, comme à peu près tout le monde, elle misait sur une sortie de crise relativement rapide. Eh ben, elle a fini par céder aux faucons de la BCE qui craignent, les fameux faucons qui craignent les effets de second tour sur l'inflation. Et en plus, il y en a certains au sein du board qui estiment que à 2%, là où on était avant qu'elle monte ses taux, on était plutôt sur la borne basse des taux neutres, des fameux taux neutres. Vous savez, les taux neutres, c'est des taux qui n'agissent ni en soutien, ni en contrainte sur l'économie réelle. Donc, en fait, la plupart des gens disaient, au sein du board, autant monter, c'est en gestion de risque, ça coûte pas grand chose. Et aujourd'hui, les marchés continuent de penser qu'elle va encore faire un tour de vis d'ici la fin de l'année.
Et ouais.
Moi, je continue à être sceptique sur son utilité, comme je l'ai été sur le premier tour de vis. Et entre-temps, ça provoque quoi? Ça provoque un aplatissement des courbes. Et vous le savez aussi, je pense comme moi, c'est pas forcément un bon indicateur sur la croissance à venir de voir des courbes s'aplatir.
Merci beaucoup Yannick. Eh ouais, le décryptage, l'exégèse à travers ce marché obligataire des perspectives de marché, des perspectives monétaires. Yannick Lopez pour Ofi Invest. Merci beaucoup à l'ensemble du conseil de famille aujourd'hui réuni. Bertrand Lecourt, merci Bertrand de nous avoir accompagnés. Julien Marion, BFMBourse.com, article sur L'Oréal disponible.
À la semaine prochaine Guillaume.
À la semaine prochaine, Julien. Et Romain Daubry, à tout à l'heure, Julien. On vous retrouvera à la clôture, Romain Daubry.
Avec plaisir.
À 17h35, on parlera des valeurs du jour. Parce qu'il y a des surprises dans les valeurs du jour, vous nous direz si, d'un point de vue graphique, c'est ou pas des surprises. Mais on a des surprises dans les réactions de marché à certaines annonces aujourd'hui. On entre dans le détail dans un instant et surtout dans la dernière ligne droite de cette séance à suivre avec Antoine dans 2 minutes. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.